Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau numéro du Énervé, la suite France Inter plus de Chris. Toute cette semaine, on rend hommage à cette grande voix de radio, disparue le 19 novembre 2009, première fipette devenue l'une des piliers de l'oreille en coin et la productrice de nombreuses émissions. Ce soir, portrait sensible de Bambi, c'est le nom de scène de Marie-Pierre Pruvot. Elle raconte son enfance en Algérie, c'est très féminin, la découverte qu'elle grandit dans le mauvais corps, sa rencontre avec un premier homme à l'adolescence, Édouard, qui lui ouvre les portes de son monde. Elle raconte sa mère qui accepte petit à petit sa transition et puis son départ pour Paris. Marie-Pierre intègre la troupe du Carrousel de Paris où performe les 100 plus beaux travestis. Elle devient Bambi. Plus de Chris, soirée sensible sur France Inter.
Qu'est-ce qui est beau ? Les corps sont beaux. Les corps humains sont beaux en particulier, mais même les corps animaux sont beaux. Qu'est-ce qui sent bon ? Ah, les parfums d'Algérie, en particulier les parfums un peu soutenus du jasmin, des seringas qu'on retrouve ici d'ailleurs, et les fleurs d'oranger.
À quoi ressemble votre chambre à coucher ?
Elle est très stricte, ma chambre à coucher. Oui. Je me rattrape un petit peu du fouillis et de l'apparent désordre qu'il y a dans mon bureau. Mm-hmm. C'est une très ancienne chambre à coucher de grand-mère, mais il n'y a rien au mur.
Rien ?
Rien au mur.
De quoi avez-vous peur ?
J'ai longtemps eu peur du noir et de la mort. Ça, c'est peut-être un peu la même chose, je ne sais pas. Maintenant, de quoi j'ai peur ? Je ne sais pas. Peut-être encore de la mort, de la maladie surtout. Je devrais dire quand j'étais petit, mais ça m'écorche la langue, mais c'est comme ça que je devrais parler.
Oui.
Ben oui, donc j'ai été élevée tout à fait comme un petit garçon. J'ai donc vécu, à vrai dire, normalement.
Vous vous appeliez comment quand
Jean-Pierre.
Vous étiez enfant ? Jean-Pierre.
Oui.
Oui.
Avant de devenir Marie-Pierre, j'étais Jean-Pierre. C'est pour ça que ça a été facile de trouver un nouveau prénom. Oui. Je m'appelais Jean-Pierre. Mon père était mécanicien. Il avait un petit garage, un atelier de mécanique.
Ça se passait où ?
Ça se passait dans un département qu'on appelait la Grande Kabylie, c'est-à-dire situé à peu près 60 kilomètres à l'est d'Alger.
Ça ressemblait à quoi ?
Oh, à quoi ça ressemblait ? Il n'y avait rien de plus charmant, en fait. C'est tout mon paradis qui est là-bas, bien sûr. Il y avait un gros bourg qui était habité par à peu près 2000 Français d'origine et quelque chose comme 5000 musulmans. Et puis, il y avait tous les faubourgs et les douars environnants. Il y avait déjà un bidonville. Et alors là, ils s'entassaient vraiment d'une façon misérable. C'était uniquement des musulmans, et ils s'entassaient dans ce qu'on appelait les gourbis, quoi.
Et votre mère ?
Oh, ma mère était un ange, bien sûr, et puis elle n'était sévère que pour l'école.
C'est vrai ?
Oui.
Pourquoi ? Vous n'étiez pas très bonne à l'école ?
Non, pas très bon encore. Oui, pas très bon, si vous voulez. J'ai haï l'école dans mon enfance, parce qu'on avait le droit d'y entrer qu'à 6 ans, et quand on a commencé à aller à l'école, j'ai déchiré mes cahiers, etc. Je refusais d'apprendre. Et c'est elle qui m'a appris à lire et à écrire, qui m'a, jusqu'à 12, 13 ans, qui a été tous les jours derrière moi pour me faire apprendre les leçons. Sans elle, je ne sais pas ce que je serais devenue.
Mais qu'est-ce que vous rejetiez si fortement dans l'école ?
L'école. Je ne supportais pas qu'on soit deux à table, comme ça, dans une petite table, avec nos encriers, qu'il y ait quelqu'un qui nous dise « Ouvrez vos cartables, asseyez-vous. »
L'autorité.
Oui.
Le cadre.
En fait, je ne sais plus analyser aujourd'hui ce que j'ai ressenti à l'époque, mais je me souviens que c'était une haine d'une grande violence, je déchirais. Et ma mère me dit, mais comment est dans quel état est ce livre ? Je renversais les encriers dessus et je disais, naturellement, j'accusais les autres. Mais c'était moi qui le faisais par haine de l'école.
Alors, ce petit Jean-Pierre, il avait des copains, des copines ?
Ma foi, non, je ne sortais pas de chez moi, j'avais une seule copine, c'était la fille de la voisine, avec qui nous jouions.
Oui. Donc c'était un enfant plutôt solitaire.
Oui, plutôt solitaire, c'est vrai. Non, je n'ai pas du tout été les enfants qu'on voyait dans les rues de Borges-Ménagiel, parce qu'il n'y avait pour s'amuser que les rues à Borges-Ménagiel. Mmh. C'était un village en pente, et beaucoup d'enfants, surtout les garçons, pas les filles du tout bien sûr, mettaient des planches à roulettes, on appelait ça des planches à roulettes. Il y avait des planches comme ça, et puis ils mettaient des roulements à billes de chaque côté.
Ils avaient inventé la planche à roulettes avant tout le monde,
bien sûr. Et ça faisait un bruit infernal, mais ils s'amusaient follement.
Et vous pas ?
Ah non, 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 non.
Les jeux physiques, comme ça, ne vous...
Non, 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 je les ai jamais pratiqués. Je ne les ai jamais pratiqués.
Voilà, elle s'appelait encore Jean-Pierre, elle n'aimait pas les jeux des garçons, elle se sentait mal à l'école, mais brillante quand même, au bout d'un moment. Marie-Pierre Isser, ancienne meneuse de revue sous le nom de Bambi, ancien prof de français sous un autre nom encore, portrait sensible.
Donc à 6 ans et demi, près de 7 ans, j'ai commencé à lire, mais au départ je n'aimais pas lire parce que je lisais trop lentement. Mmh. Je n'arrivais pas à lire vite. Mmh. Et je lisais beaucoup plus lentement qu'on ne parle, par exemple. Mmh. Certaines phrases, je ne les comprenais pas jusqu'au bout. Je n'aimais pas ça. Quand ma mère m'a lâchée, c'est qu'elle s'est rendue compte. M'a lâchée, je veux dire, quand elle ne s'est plus occupée de mes études, c'est qu'elle s'est rendue compte que je les aimais bien et que j'allais m'en sortir seule.
Mmh. C'était à peu près quand, ça?
Ben, j'avais 13 ans, à peu près.
Oui. Là, vous avez déjà perdu votre père à 13 ans.
Oui, j'avais déjà perdu mon père à 13 ans.
C'est très jeune. À peu près.
Oui, c'est très jeune, oui. Parce que quand j'ai commencé à me rendre compte qu'il fallait que je m'en sorte autrement, je me suis sentie enfermée dans une tour. Je me suis enfermée moi-même parce que j'étais, dans ma tête, enfermée dans une tour d'ivoire. J'arrivais plus du tout à savoir par où j'allais sortir.
Quel était le problème alors pour vous ?
Le problème, c'est que je savais déjà que quelque chose n'allait pas en moi et qu'il n'y avait pas, que je n'étais pas un garçon. Ça, je le savais. Or, j'étais élevée comme un garçon.
Mais et physiquement, vous n'étiez pas un garçon ?
Physiquement, j'avais...
Anatomiquement ?
Anatomiquement, j'avais déjà quelques problèmes. Je dois rendre hommage ici au docteur de famille qui ne savait pas quoi dire. Mais qui m'a toujours fait, par exemple, des certificats médicaux quand j'en avais besoin et qui m'a aidé à patienter jusqu'à ce que je quitte Bourges-Ménéhiel pour Alger.
C'est-à-dire que vous, vous vous sentiez femme ? Vous ne vous sentiez ni femme ni homme ?
Ben, c'est-à-dire que je crois... C'est très difficile de dire qu'on se sent ni femme ni homme. Dès qu'on est mis à l'écart du sexe supposé où on est, ben on se sent dans l'autre sexe. Ça, c'est, on ne peut pas se sentir entre les deux. Ce n'est pas possible. Oui. Socialement, c'est déjà impossible.
Il faut choisir.
Il faut choisir. Et je suis allée au lycée. Mm-hmm. Au lycée de garçons. Au lycée Buveau. Alors, à partir du lycée, ça a commencé à se dégrader. C'est-à-dire, les prix d'excellence, c'était terminé. J'ai encore eu, il y avait des prix à l'époque. J'ai encore eu un prix de physique, je me souviens, à la fin de la seconde.
Bravo.
C'était bien un prix de physique, mais c'était rien à côté des prix d'excellence que j'avais eu. C'était un reliquat de ce que j'avais appris en troisième, en fait. C'est
donc
tout.
Vous perdez pied sur le plan scolaire ?
Je perds pied entièrement et ça m'est complètement égal. J'ai autre chose à régler.
Et cette autre chose que Marie-Pierre Isser, qui s'appelle encore Jean-Pierre à cette époque, a à régler, c'est son identité sexuelle et son arrivée à Alger, ses contacts avec un monde différent, accélère sa prise de conscience, portrait sensible.
C'est-à-dire que ce que je sens, ce que je vois, d'abord j'approche dans ce café, qui est une sorte de grand casino d'été, où il y a tous les artistes qui passent et les artistes qui viennent en client. Et je commence à voir des gens un petit peu... J'essaye de me projeter dans quelqu'un et dans quelque chose.
Vous commencez à chercher à ressembler à une femme.
Mais naturellement. Naturellement, je
cherche. Mais c'est une transgression énorme, surtout en plus dans le pays où vous étiez.
C'est catastrophique. Alors, quand je suis dans ce bistrot où je travaille, où j'habite, mais où je prends un malin plaisir à aller servir derrière le comptoir, je suis là. La maîtresse de mon oncle est une femme très drôle, très ouverte, qui s'amuse énormément avec les clients. Je prends modèle sur elle. J'essaye de m'amuser, etc. Mais j'ai 14-15 ans, j'ai les traits que j'ai, on s'en amuse, mais je commence à sentir les regards. Et je sais que les regards sont autant de condamnations. On ne peut rien me dire, parce que si on me disait un mot, ce serait une condamnation tellement violente que je crois que, étant donné que je ne fais rien de mal, comme on dit, on me respecte encore. Mais je sens que tout d'un coup, ça commence à tourner.
Oui, mais en même temps, vous avez les traits que vous avez, qui sont des traits très fins, et vous vous sentez très féminin ou féminine
oui,
à l'époque.
Oui, oui, oui.
Mais vous vous coiffez, vous accentuez un peu déjà... Cet aspect féminin.
Derrière le bar, J'accentue le côté oui. féminin, oui. Mais c'est vrai que j'essaye, au contraire, quand je suis au lycée, j'essaye, au contraire, de me faire couleur de muraille et de passer absolument inaperçu. J'ai très, très peur d'un scandale, j'ai très peur de reproches. Je ne voudrais pas qu'on dise sur moi, je ne sais pas, moi, PD, quelque chose comme ça, ce sont des mots qui...
Ça aurait été une insulte terrible.
Ah, à cette époque-là, il faut faire le départ entre ce que je pensais à l'adolescence et ce que je pense après. C'est très, très net. Mais à cette époque-là, ça aurait été une condamnation totale. Mm-hmm. Sans compter qu'en Algérie, à cette époque-là, c'était très grave de passer pour l'être.
Alors, tous ces remous émotionnels, psychologiques, j'imagine même physiques, dans lesquels vous étiez, se passent sur fond de guerre d'Algérie, de guerre d'indépendance de l'Algérie.
Oui, oui, que je ne perçois qu'à peine. Je ne perçois pas l'histoire.
Mais votre histoire vous mange.
Mon histoire me dévore. Et je suis tentée par le milieu homosexuel. Mais je sens en moi, à l'époque de l'adolescence, je le refusais absolument. Oui, je le refoulais.
Vous racontez comment il y avait des spectacles de travestis qui venaient.
Voilà, il y a un spectacle de travestis qui est passé, et c'est un spectacle de travestis bouffon et assez comique.
Alors, à l'adolescence, où vous êtes finalement quand même assez libre, c'est-à-dire.
Je suis libre, oui.
Vous avez parmi les adultes qui vous entoure, vous connaissez des homosexuels.
Ah oui, 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 oui.
Un journaliste algérien
qui s'appelle Albert Canson, oui. Et c'est là que je rencontre Édouard.
Ah oui, Édouard, c'est un homme qui vient aborder le jeune Jean-Pierre dans ce bistrot où il aimait aller boire un verre après le lycée. Marie-Pierre Isère, ancienne meneuse de revue dans des grands cabarets parisiens, ancien prof de français, portrait sensible.
Et la conversation commence. Ça me fait très peur, ça me donne des rêves, etc. J'ai peur de lui. Je me demande pourquoi. Et puis je me dis, mais naturellement, il sait me voir, il porte sur moi le regard de la clairvoyance, c'est lui qui va me faire réaliser, et c'est grâce à lui que je vais m'en sortir. Et d'ailleurs, que va-t-il se passer? Il va me mener à Paris, il va sans doute rentrer à Paris, et ma mère sera d'accord. Enfin, immédiatement, je fais une sorte de film où tout sera très bien. Tous mes espoirs sont mis dans Édouard maintenant. Il m'a mise très en confiance, je parle systématiquement féminin, il m'a mise très en confiance parce qu'il m'avait dit dès le premier jour, surtout, parlez à votre mère de notre rencontre, il faut surtout ne rien lui cacher parce qu'on aurait l'air coupable de quelque chose. Oui. Ça m'avait beaucoup rassurée. Oui et non, de notre côté, ça ne fallait pas que ça me rassure trop non plus.
En tout cas, il vous a suffisamment rassuré pour vous inviter chez lui, ce que vous n'auriez peut-être pas fait autrement.
Il m'a rassuré et puis intrigué. Et en quelques jours, il était devenu l'être le plus important sur la Terre qu'il pouvait y avoir pour moi. C'était lui qui allait me former. Un jour, je dis à ma mère que je le vois. Et comme j'insiste et que je le vois toujours, un jour, elle se fâche. Elle me dit, je crois que peut-être... Elle imagine une homosexualité, quelque chose, des rapports coupables à ses yeux. Et elle me dit, je veux le connaître. Et je t'interdis, elle me dit très doucement d'ailleurs, mais je la sens très grave. Je t'interdis de le voir tant que je ne t'aurai pas donné mon autorisation. Et je dis à Édouard ce qu'a dit ma mère. Édouard me dit, mais c'est très bien, etc. Et c'est ce jour-là qu'Édouard veut m'embrasser. Je ne peux pas dire à quoi je pensais à ce moment-là, mais peut-être au fond de moi que j'étais ravie de ce qui se passait, je ne sais pas. J'ai eu très peur, je me suis débattue. Après quelques efforts, parce que rien ne sortait de ma gorge, j'ai poussé un hurlement. Immédiatement, quand j'ai poussé ce hurlement, il n'a plus de désir sur moi, parce que des désirs de moi, il en avait.
Il a même commencé à vous culpabiliser.
Oui, bien sûr.
Oui, abondamment, oui, c'était abondamment. Votre faute. Et
abondamment,
tout.
Bien sûr. Ouais. Il m'a dit que j'avais été complètement ridicule à lui lancer les œillades que je lui avais lancées, et que j'avais cherché à le séduire, mais que j'avais le cœur complètement fané d'avoir des procédés pareils.
Alors, il faut imaginer quand même le poids que c'est, quoi, pour cette adolescente que vous étiez, cet adolescent que vous étiez.
C'est un grand poids.
Parce que cet homme que vous aviez entrevu comme une ouverture sur un monde où vous auriez pu être vous-même, Tout d'un coup, vous culpabilisez, ensuite vous le présentez à votre mère, qui l'adopte complètement, qui l'installe à la maison.
Oui, elle l'installe à la maison, il y a la pièce du fond là-bas, on a encore la maison à cette époque, ça ne va pas durer longtemps, mais on l'a encore. Alors il arrive le vendredi soir, il m'amène en voiture, le vendredi soir c'est lui qui me raccompagne, et le lundi matin on repart ensemble aussi.
Voilà, et pendant ce temps-là, il ne se prive pas de vous faire la morale.
Ouh, mais il n'arrête pas, il n'arrête pas. Ma mère est ravie, parce que devant ma mère, il me fait une morale scolaire.
Oui.
Et on fait des lectures, et il me fait des lectures à haute voix lui-même. J'adore qu'on me fasse la lecture à haute voix.
C'est quand même lui qui vous a ouverte sur la littérature.
Ah oui, oui. Je lui dois beaucoup. Je lui dois énormément. Plus tard, je l'ai vraiment adoré. Epilepsy is dancing, she's a Christ now departing, and I'm finding my rhythm as I twist in the snow. Oh, the metal burned in me, down the brain of my river. Oh, the fire was searching for a waterway home. I cry, glitter is love. My eyes thin inside with green jewels, hanging like Christmas stars from a golden veil. As I came to a screaming, hold me while I'm dreaming, for my fingers are curling and I cannot breathe. Then I cried in the kitchen, how I seen your ghost witching. There's a soldering blue line between my eyes. Dans les rues d'Alger, et je me trouve, enfin, d'abord dans la rue du Mont d'Urville, la rue d'Isée, et je me trouve sur le forum où tout le monde est là. Je suis coincée dans la foule et je me sens participer à la foule. Et je crie comme tout le monde, vive l'Algérie française, vive de Gaulle, je ne sais plus ce qu'on crie, vive Massu, etc. Je crie avec les autres et pour la première fois, en quelque sorte, je peux dire de ma vie, je me sens intégrée. Dans une société.
Alors voilà, comment vit-on quand on sent qu'on est une femme avec un état civil d'homme? Comment se fait ce passage difficile de la vie prévue pour vous à la vie que vous choisissez? Pour Marie-Pierre Isser, qui s'appelait alors Jean-Pierre, tout se passe sur fond de guerre d'indépendance d'Algérie, du côté des Pieds Noirs. Nous sommes donc le 16 mai 1958 sur le forum à Alger.
Ce jour-là, il y a des femmes musulmanes qui se dévoilent. Et puis d'autres qui sont dévoilées, qui n'osent pas se dévoiler, et qui sont dévoilées par des Françaises qui leur disent « mais débarrasse-toi de ce voile », etc. Et tout le monde s'embrasse, c'est la grande fraternisation, tout le monde tombe dans les bras les uns des autres.
Et vous aussi, à votre façon, vous vous dévoilez.
Et moi, je me dévoile, et surtout que j'ai en face de moi, à un moment donné, je tombe devant une femme, une musulmane, qui me voit, et qui, on fait comme tout le monde, elle et moi. Elle me dit « ma sœur ». Elle s'enlève le hijab comme ça et elle dit « ma sœur » et on tombe dans les bras, on s'embrasse. Mmh. Et il me semble que c'est ma consécration.
Ouais.
C'est une journée magnifique pour moi, c'est vrai. Voyez-vous, je vis l'histoire et en réalité, je ne vis que ma petite histoire personnelle dans toute cette affaire. J'en ai longtemps eu une grande culpabilité, mais je ne pouvais pas faire autrement. C'était entièrement prenant. Je ne pouvais pas faire autrement que de penser à moi. Il le valait absolument.
Et alors, la rencontre avec Serge,
c'est ce jour-là.
C'est ce jour-là. Alors, Serge.
Le beau Serge. Le beau Serge qui m'en a fait voir de toutes les
couleurs. Qui sentait bon le sable chaud.
Non, il sentait pas bon le sable chaud, mais il avait ce côté un petit peu traînassé comme faisaient beaucoup les parachutistes. Et les faux parachutistes. Édouard, qui l'a vu une fois, m'a dit « Qu'est-ce que c'est que ce parachutiste opérette ?» Il a dû voir à des détails vestimentaires que, enfin, pour moi, c'était mon parachutiste. Alors, j'étais sur le forum et en descendant jusqu'au boulevard de Front de Mer...
Après ce baiser avec cette femme qui vous avait reconnue en tant que femme.
Oui, voilà. Je descends naturellement avec un enthousiasme intérieur extraordinaire. C'est le grand jour pour moi. Ça me libère, ça libère des forces en moi, des désirs probablement. Moi, c'est vrai que je voudrais en savoir davantage, comme dit la chanson. Et
c'est joliment. Et puis il serait temps.
Oui, il serait temps. Il serait temps. Je souffre. Alors, tout le monde marche dans la même direction. Mais je vois qu'il vient d'une direction différente, donc il n'a pas assisté à la réunion, qu'il n'a pas manifesté. Un parachutiste, et que je trouve beau, et qui me plaît d'une façon extraordinaire. Les parachutistes avaient une aura extraordinaire en Algérie. C'était eux qui allaient nous sauver, c'était eux les dieux qui allaient nous sauver. Si bien que j'essaie de me mettre sur mon chemin, et lui, il a des yeux très pâles.
Un lapsus très beau. Vous avez dit « j'essaie de me mettre sur mon chemin
». Oui, c'est pas un lapsus. Oui, mais c'est vrai, un lapsus, c'est vrai. Bref, j'essaie de me mettre sur son chemin, c'est-à-dire sur le mien en fait. Je n'avais pas fait exprès, bien sûr.
Marie-Pierre Isser a des yeux de chat, des gestes gracieux, sans exagération. Elle a cette féminité mystérieuse que certaines lui envient, sans savoir après quel combat elle se l'est accordée. Ancienne prof de français, ancienne meneuse de revue, ancienne adolescente troublée. En 1958, dans le milieu pied-noir où elle vit, on l'appelle encore Jean-Pierre, mais Serge, sur la place du forum, ne savait rien de ça, portrait sensible.
Il marchait très lentement, comme ça. Et puis, je m'arrête complètement et je vais regarder dans la vitrine. Et je ne sais pas s'il a senti, et il m'a regardé dans la vitrine aussi. Et il s'est passé quelque chose. Et il est revenu, il m'a parlé. Et il était un peu tremblant, sans doute l'étais-je aussi. Je crois, il m'a amené un petit peu plus loin, j'ai dit que j'allais prendre le train et il m'a amené jusqu'au train. Si bien qu'il m'a embrassé une première fois dans la rue, il m'a embrassé une deuxième fois dans le grand ascenseur. Oh là là. Oh, c'était le bonheur. Je me demande comment j'ai pu...
Vive la vie.
Oui. C'était affreux, mais c'est vrai qu'il y a dans cette découverte, il y a quelque chose de pathétique parce qu'elle est trop tardive déjà. Mais enfin, elle vient peu à peu et c'est l'essentiel pour moi. Et je prends le train. Mais il m'a embrassé, on se donne rendez-vous, etc. Il est d'une indécence extraordinaire, mon rendez-vous. Je me promets que le rendez-vous qu'on s'est donné, il aura lieu chez Édouard, à l'insu d'Édouard, et que j'aurai...
Chez Édouard qui habite chez vous.
Édouard garde son appartement à Alger.
Ah, d'accord.
Édouard n'habite chez moi que le vendredi. Il dort 3 nuits chez moi. Vendredi soir, samedi soir et dimanche soir.
Donc le rendez-vous aura lieu chez Édouard à Alger.
Chez Édouard à Alger, ah oui.
Pourquoi ?
Mais où voulez-vous que je donne rendez-vous ?
C'est vrai.
Je ne vais pas lui donner rendez-vous dans un hôtel. J'ai la ferme intention d'être maquillée, d'être coiffée et d'avoir une robe longue, d'essayer d'être un petit peu... comme on rêve à 15-16 ans, enfin du moins comme je rêvais, d'être une sorte de star qu'on voit sur les affiches, etc. Voilà. Pourquoi ? Pour qui ? Pourquoi je me prends ? Est-ce que je veux être absolument ?
Et vous vous préparez ?
Je me prépare.
Voilà.
Et je me prépare et je m'habille, bon, avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire des moments de désespoir où je me trouve d'une laideur épouvantable.
Pardon, mais horrible.
Tout ça, je le vis. Et je le vis au premier degré, bien sûr. Je ne prends aucun recul. C'est trop grave pour moi, bien sûr. À 16 ans, c'est trop grave. On ne peut pas dire, il m'avait dit, Édouard, de ne pas me prendre au sérieux. Mais comment ne pas se prendre au sérieux à l'adolescence? Il faut être vraiment bien dans sa peau pour ne pas se prendre au sérieux. Mmh. Quand on est mal dans sa peau, ce qui était mon cas, on fait tout pour en sortir et tout a de l'importance. On cherche ce qui pourra vous sortir de cette mauvaise affaire. Et puis, tout ce qui ne peut pas vous sortir de cette mauvaise affaire, vous le délaissez absolument, ça perd toute son importance.
Donc là, vous vous préparez, vous vous apprêtez, vous vous maquillez, vous vous coiffez.
Après, je me trouve laide, après je me retrouve belle. C'est tout, je passe par toutes les transes. Et puis, tout d'un coup, je m'aperçois que l'heure passe et qu'il ne viendra pas au rendez-vous.
Le beau Serge ne vient pas.
En fait, on s'est trompé sur l'heure. Il m'a dit 5 heures, paraît-il. Moi, j'aurais compris 15 heures. Le beau Serge ne vient pas au rendez-vous. So deeply, so steeply in love. The harmony that you charm me with cascades from above. Bewitch me, beguile me, and lead me astray. Don't you fade on me, don't you run away.
Il y a Édouard et Albe qui arrivent à la place de Serge.
Voilà.
Alors que vous êtes habillée en femme.
En femme, je suis
là,
en robe longue, maquillée.
Il n'y a pas d'équivoque sur ce que vous attendez.
Il n'y a pas d'équivoque, j'ai du rouge à lèvres, les cils faits, les yeux faits, j'ai même du fond de teint.
Qu'est-ce qu'ils disent alors?
Ben, ils sont extrêmement surpris, surtout que je viens de pleurer longuement et que je dois avoir la tête défaite. Encore, je ne sais pas si à 16 ans et demi, j'avais la tête défaite. Mais... Je crois qu'ils ont pitié de moi.
Premier rendez-vous galant raté pour Jean-Pierre qui se sent tellement femme. Attention, il ne se sent pas homosexuel, elle se sent femme. Jean-Pierre s'appelle aujourd'hui Marie-Pierre Isère, portrait sensible. Et pour l'instant, le beau Serge n'est pas là, mais Édouard et Albe rentrent, eux, et découvrent cet adolescent maquillé en larmes.
Je crois qu'ils ont pitié de moi. Albe ne dit rien. Édouard me dit, bon, va vite te démaquiller, je prépare le café. Mais je les entends parler de la salle de bain où je suis. Je les entends parler. Et il y en a un qui dit, on en fera une nouvelle asphodèle, en fait une nouvelle coccinelle. Et l'autre dit, oui, j'ai bien peur qu'on en fasse une nouvelle divine. C'est une allusion à Jean Genet. Et ce mot de divine me reste dans l'esprit.
Ouais.
Et j'ai décidé, à cet instant-là, que ce serait mon pseudonyme. Ça n'est pas, ça a été un petit bout de temps. Mais je trouve ce nom de divine quelque chose de magnifique. Et je me dis, mais voilà, mais c'est pour moi. C'est ça, naturellement, parce que, en même temps, je suis dans le narcissisme le plus total. J'ai une sorte d'amour de moi-même et des moments de haine de moi-même, mais des moments d'amour de moi-même extravagants.
Serge arrive ?
Serge arrive, mais il est laissé sur le pas de la porte.
En plus, c'est quand même une relation avec Serge donc, qui commence, mais qui est une relation aussi assez platonique.
Elle est platonique.
Eh oui, alors décidément, vous n'avez pas de chance.
J'ai pas de chance. J'ai pas de chance. Et ce qui va se passer à Borges-Menayel, quand je ferai venir Serge à Borges-Menayel, ça va encore m'enfoncer. Et je fais dormir Serge dans le lit avec moi. Il m'embrasse. Il m'embrasse sur le front, il m'embrasse sur les joues, même sur la bouche. Mais il m'appelle mon petit ange. Et il n'arrive pas à sortir de ce petit ange. Et me voilà condamnée à être un ange. Ce qui ne me plaît pas du tout. Mais c'est comme ça, c'est déjà mieux que rien. J'essaye, etc. Le lendemain, il est près de 11h. On est encore au lit, on dort. Et la porte, je ne l'ai même pas fermée. Cette porte, je ne l'ai même
vous
pas fermée complètement.
Vous l'avez fait exprès.
Peut-être, vous croyez? Consciemment, je n'ai pas fait exprès. Mais peut-être que...
Vous en aviez marre du secret, peut-être.
Oui. C'est sûr que ça pèse. Et surtout vis-à-vis de ma mère.
Et là, elle vous voit.
Et là, elle me voit. Elle me voit dans les bras de Serge. Elle me voit littéralement blottie dans les bras de Serge.
Elle s'écroule, quoi.
Elle s'écroule. Elle appelle. Je ne remarque rien dans sa voix. Elle appelle et elle me dit, il est l'heure du repas. Et elle s'en va. Et... C'est vraiment un moment très émouvant pour moi, enfin, parce que c'est de tout ce qui concerne ma mère. Là, j'ai eu peur. Alors là, vraiment, il me semble pas que j'avais fait exprès de laisser la porte ouverte. Je suis presque sûre qu'elle m'a vue dans ce fameux miroir où je me regarde tous les jours, où je vois des merveilles, où je me vois. Je m'imagine. Je finis par me voir, d'ailleurs.
Divine.
Ah oui, divine, c'est ça. Et ma mère m'a vue. Je vais à la cuisine, je la rencontre à la cuisine et je vois ma mère comme je ne l'ai pratiquement jamais vue. Elle est effondrée. Elle a la révélation d'une vérité, je ne sais pas quelle vérité. Elle est effondrée et moi je lui en veux. On se regarde comme ça sans rien dire. Et à un moment donné, elle vient et elle m'embrasse le front et elle pleure. Or la seule fois où elle m'a embrassé le front en pleurant, c'est à la mort de mon père. Si bien que ça me fait un effet, je me suis repoussée violemment d'elle. Je n'ai pas voulu de son baiser. Et à table, elle ne dit rien. Pas un mot. Serge, qui se sent coupable peut-être aussi, qui lui dit, madame, il y a un malentendu. Il faut que je vous explique. Vous permettez que je vous parle? Et ma mère, qui ne peut pas dire un mot, qui ne peut rien entendre, fait non de la tête. Mais ce moment dramatique est doublement dramatique pour moi, parce qu'il a parlé de malentendu en plus. Ça me met hors de moi.
Mais...
Je ne peux pas supporter qu'il y ait un malentendu. Vous comprenez? Je ne peux pas supporter cette négation. Il me semble qu'on veut me dissoudre dans l'air. Je ne peux pas supporter cette négation.
Voilà, parfois, quand je rencontre ces gens dont je vous rapporte les portraits, j'essaie de sentir ce qu'ils ont pu sentir. Et j'imagine le désarroi que Jean-Pierre, aujourd'hui Marie-Pierre, a vécu. Et la force aussi qu'il lui a fallu dans cette société virile des pieds noirs d'Algérie pour imposer sa différence, sa réalité et sa féminité.
Ma situation s'améliore quand même. Ma mère finit par me laisser aller vivre à Alger. Je travaille dans un restaurant qui s'appelle le Chasse-Mouche et je travaille d'abord à la plonge. Mais c'est pendant que je suis à la plonge qu'alors je me constitue. J'arrive à me constituer, je fais ce qu'il y a à faire, toutes ces choses plus ou moins médicamenteuses, enfin, je fais ce qu'il y a à faire. J'ai vu des médecins, j'ai vu mon médecin de famille jusqu'à présent. Mmh. Mon médecin de famille s'est bien gardé de quoi que ce soit. Oui. Il m'a dit de patienter, il m'a dit que j'étais trop jeune, il m'a dit d'attendre, il m'a dit qu'à l'adolescence, rien n'était décidé, qu'il fallait attendre absolument de savoir ce que le corps donnerait, etc. Qu'au demeurant, j'en savais plus que lui, parce que vraiment, il ne sait plus quoi dire. Mmh. À Alger, je finis par connaître des gens, des choses, par, en effet, le patron du restaurant, qui est peut-être la connaissance la plus extraordinaire que j'ai eue, qui m'a beaucoup aidée. Et quand je suis, disons, jeune et jolie, il me prend comme barmaid dans son bar.
Et là, vous commencez à être jolie.
Je commence. Enfin, je me trouve à mon goût. J'ai plus besoin d'imagination pour me voir jolie dans le miroir. Mm-hmm. Je me trouve à mon goût. Je me maquille. Mm-hmm. Je me vieillis beaucoup d'ailleurs par le maquillage, etc. J'ai mes robes. Mon patron m'a offert des robes pour être derrière le bar, mais je n'aimais que derrière le bar.
Donc là, vous travaillez comme femme.
Là, je travaille comme femme.
Vous êtes toujours avec Serge.
Je suis toujours avec Serge, mais chacun a sa chambre. Mm-hmm. Et Serge a quand même...
Il vous traite toujours comme un ange ?
Un peu moins, maintenant. Ça y est, un peu moins. Pas tout à fait comme un ange, mais surtout, il me délaisse un peu. Mais il ne sait pas que je suis barmaid. Serge m'aperçoit un jour barmaid, et le voilà soudain fou amoureux de moi, jaloux, et qui veut m'empêcher de travailler. Et alors qu'il est d'une brutalité épouvantable. C'est-à-dire que j'ai peur qu'il me batte constamment. Il veut me renfermer, il veut m'empêcher de travailler. C'est abominable. Et moi, je refuse absolument ce système-là.
Donc,
je
vous quittez l'Algérie, là ?
Je quitte l'Algérie à la faveur du putsch du colonel.
Donc, vous partez à Paris. Vous savez où vous allez atterrir ?
Je ne sais rien faire. Comment voulez-vous que j'aie la moindre valeur ailleurs que chez Madame Arthur ?
Donc, vous allez directement là-bas. Comment vous faites ?
J'arrive à Paris. Je demande un hôtel dans le quartier de la rue des Martyrs. J'arrive chez Madame Arthur. En fait, je vais au Carrousel. Je vais au Carrousel, qui est le même patron. Je vois le patron qui me dit « Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous savez faire ?» Je dis rien. Et il me dit « Comment ? Mais vous ne savez pas chanter ? Vous ne savez pas danser ?» Je lui dis « Non, mais je peux essayer, je peux le faire. » Il m'a dit « Bon, écoutez, vous allez vous présenter chez Madame Arthur, vous verrez ma femme. » Et ça recommence avec la patronne qui me dit « Qu'est-ce que vous savez faire ?» Alors, je lui dis « Je peux chanter. »
Vous aviez fait des progrès entre temps.
Peu chanter, alors je sais pas, j'ai donné un titre de chanson, etc. On me dit bon, d'accord, tu vas aller à l'atelier. Je sais pas ce que c'était que l'atelier. En fait, l'atelier, c'était l'atelier de couture des cabarets. C'était juste au-dessus de chez Madame Arthur. Elle m'a dit tu vas aller à l'atelier, tu vas dire à Peggy qui te donne une robe, puis tu vas essayer, tu vas faire une audition.
Ça s'est passé aussi simplement que ça.
Oui. Mais oui, parce que j'avais le physique.
Vous étiez divine.
D'abord, elle m'a dit... Oui, quand elle m'a demandé comment tu t'appelles, j'ai dit divine.
Divine.
En réalité, il a fallu lâcher ce nom-là. Ça m'a fait souffrir. Mais heureusement, parce que c'est abominablement prétentieux de s'appeler divine. Mais je ne m'en rendais pas compte. Vous voyez. Alors, elle m'a fait tout de suite travailler. Elle a demandé à quelqu'un de me faire répéter, etc. Elle m'a fait travailler immédiatement. Elle m'a fait faire des robes, parce que je n'avais aucune robe du soir. Pour passer, il fallait passer en robe du soir. Je n'avais aucune robe du
vous
soir.
Vous débarquiez, quoi, vraiment.
J'ai débarqué. Mais je ne sais pas comment m'exprimer. Parce que je crois que c'est vraiment la jeunesse qui veut ça. C'est que je n'ai pas douté un seul instant que j'y travaillerai. Il n'y avait pas d'autre endroit pour moi, parce que si j'étais allée, par exemple, à la Nouvelle-Ève, on m'aurait dit, bon, vous savez danser. Et là, il aurait fallu que je danse. Tandis que là, je savais que chez Madame Arthur au Carrousel, bon, eh ben, je pourrais me présenter comme ça. Du moment que le physique passait, le restant, en travaillant, ça viendrait. Et puis que ce ne serait pas grave et qu'on ne m'en voudrait pas.
Donc, vous apprenez à chanter
J'apprends plus ou moins à chanter, oui. Je chante, à danser.
Puis vous faites même des striptease.
Après, je fais des striptease. Ben oui, naturellement, il faut faire des striptease.
Mais on a la trouille quand on fait un striptease.
Oui. Alors ça, oui, ça m'a fait très peur. La première fois que je me suis sentie indécente, c'est quand je suis passée en trousse. C'est-à-dire, la trousse en milieu de théâtre, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui dans les bodys. Vous savez ce que c'est que les bodys ?
Oui, c'est des petits.
Voilà, c'est des petits.
Comme un petit maillot de bain.
Le haut, c'est un balconnet. Le reste, c'est comme un body, ça s'appelle une trousse. Mm-hmm. Alors, il y a les trousses pailletées, et ça se met le plus souvent avec des panaches
de plumes. Un petit corset, quoi.
Un petit corset, ouais. Qui fait une taille de guêpe, on ne peut pas faire autrement. Et on est fiers de ça, vous ne pouvez pas savoir, comme
c'est
ça fait plaisir. Bah oui, tout est clinquant, tout est magnifique, j'adore le clinquant à cette époque-là. J'aime beaucoup le clinquant. Tout ce que je dois savoir, des bons principes dont je me suis imprégnée, dont j'ai été imprégnée, presque malgré moi, mais aussi de bonne volonté, tout ça est oublié. Et j'ai des panaches de plumes. Alors, le jour où
des panaches de plumes.
Ah ben oui, il faut des panaches de plumes.
C'est le truc en plumes qu'on a derrière.
Ah, sur la tête. Sur la tête et derrière, oui. On les accroche aux hanches, on les accroche sur la tête et on chante des petites chansons.
Ah, quelle expérience.
Mais c'est un bonheur inespéré
c'est
pour
vrai.
Moi. Bah oui. Je ne vois que par ça, c'est ma liberté.
À l'heure dans le cœur d'une montre arrêtée, le temps s'est envolé, a cessé de couler, les jours passent comme de l'eau, à mes pieds immobiles, de grandes roues dentelées semblent me regarder. Le maître a dit aimer. La rivière chante quand je chante. La nuit va s'allonger au fond de la vallée où le jour l'a quitté. Des lions dorment à mes pieds, près du feu allongé, près d'un loup solitaire qu'ils aiment comme un frère. L'amour maître d'y respirer. Au loin il passe des trains qui jamais ne m'emmènent dans la gare oubliée, la ville est souvenir. En vain chante ce train et je sais où il mène, dans la gare désertée chante un autre avenir. L'amour rester. Les saules coulent des branches qui doucement se penchent sous les lueurs du ciel, tendrement reflétées. Si parfois une rose semble dire quelque chose, c'est chuchoter au cœur, et seulement quand elle ose, pas besoin d'autre chose. Pense tes échymoses, ne pense plus à ces choses, c'est là que tu te poses. Ton voyage t'alourdit, oiseau du paradis, et le coup d'aujourd'hui, c'est va donc la retrouver. Donc la retrouver, il va la retrouver, va la retrouver.
Où je vis, signé Jean-Louis Aubert, un extrait de son nouvel album sur France Inter. C'était le NRV France Inter plus de Chris. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, on finira la semaine avec du catch et des boutiques de luxe. Je vous souhaite le bonsoir.